Bonjour et bienvenue sur Comics Weekly, l'épisode numéro 14.
Oui, l'épisode numéro 14. Ah oui, c'est vrai, c'est Steve qui parle, et moi je suis Monsieur Honeybunny, bien sûr.
Ça c'est la présentation.
Ça c'est de la présentation, t'as vu ça un petit peu, ouais. On est pro ou on ne l'est pas, hein. Surtout après tant de numéros.
Exactement. Donc, semaine du... je sais pas combien... du 18 août, des sorties comics du 18 août.
Voilà.
Tu vois, le côté pro, tu vois tout de suite.
Au fait, on enregistre ça d'avance, au fait, on est le 16 juillet. On fait semblant de lire les trucs, tu sais.
Grâce à la machine à DD, nous voyageons dans le temps.
Voilà.
Un déplacement direct, mais direct, ça peut être aussi dans le temps.
Oui, voilà, exactement.
Et c'est pour ça qu'on parle souvent de Shadowland, d'ailleurs, à cause de la machine à DD.
Oula.
Voilà, c'est la première vanne du podcast, hein.
Oh là là. En plus, on l'avait déjà plus ou moins faite, celle-là. Donc, ouais. On réutilise même des vannes.
Ah bah, à l'heure du recyclage, à l'heure de l'écologie, il faut.
Oui, voilà. Recyclez vos vannes avec Comics Weekly.
Ok, donc cette semaine, du Marvel, du DC, du Marvel, du DC, du Marvel et du Marvel. Ça fait 6.
Ouais, ça doit être ça. Mais ça doit normal. Être ça. J'ai pas vérifié, mais on va dire que c'est ça. Avec du bon, du moins bon et du pas terrible.
On commence par le numéro du podcast. C'est le numéro 14, donc, puisque c'est Comics Weekly 14.
Voilà.
Et je vais commencer, tiens, cette semaine, parce que la dernière fois, je crois que c'était toi.
Mm-hmm.
Donc, moi, pour ma part, j'ai choisi le Justice League of America volume 1, numéro 14, donc, qui date de septembre 1964. 64, ça m'étonne, je crois que c'est 62. J'ai peut-être mal noté. Moi, je sais plus. Bon, des années 60, donc.
Oui, voilà. En même temps, t'étais pas là pour l'acheter, donc...
Si, monsieur. J'étais déjà né, monsieur.
Oui.
Grâce à la machine à déplacement direct.
Bien sûr, voilà.
Donc, pourquoi j'ai choisi ce numéro? C'est tout simplement parce que c'est l'arrivée de The Atom dans l'équipe de la Justice League. Voilà, donc une histoire assez étrange, hein, comment ça allait faire dans les années 60, où plus aucun membre de la Justice League se souvient de quoi que ce soit. Mais ils veulent élire un nouveau membre et ils élisent tous Atom, sans savoir qui c'est.
D'accord, très bien. On est vraiment dans les années 60, là, ça se ressent déjà dans le résumé.
Voilà, et finalement, le vilain du numéro contrôlait Batman. Et puis,
tu sais que
Atom saves the day. Et il est accepté dans la Justice League par la suite comme membre définitif du cast. Voilà.
Tu sais que pendant des années, chez DC, au fait, ils faisaient la couverture avant d'écrire l'histoire. C'est-à-dire qu'ils pensaient à une couverture marrante à faire, et ensuite, ils définissaient une histoire selon la couverture qu'ils avaient imaginée.
Bah là, justement, la couverture, c'est une main qui lance une boule de bowling dans laquelle est Atom, qui est en fait une bombe, et on voit tous les membres de la Justice League alignés comme des quilles, avec une bulle où il y a Atom qui dit non, si la boule touche, ils vont exploser, puisque c'est une boule explosive, un truc dans le genre.
D'accord.
Voilà. C'est les années 60, quoi.
Voilà, c'est les années 60, et effectivement, il y a eu des tonnes de Batman, de Superman, au fait, qui ont été scénarisés après avoir défini la couverture. Donc, ça donnait lieu à des histoires toutes plus ridicules les unes que les autres.
Bah là, au scénario, on avait Gardner Fox, et au dessin, par contre, je me rappelle plus, j'ai pas noté le nom, et je me rappelle plus qui c'est.
Bon.
De toute façon, c'est pas facile d'avoir les crédits de l'époque, hein. Généralement, faut les fouiller sur des sites.
Exactement, ouais. C'est très compliqué, c'était
pas marqué. Ouais.
Voilà. À toi, bien. Oui, bah moi, j'ai pris, grosse surprise, ouais. J'ai pris le... tu le sais déjà, d'ailleurs.
Bah, de toute façon, je t'ai dit, pas besoin de chercher beaucoup pour toi, pour celui-ci.
Voilà. Amazing Spider-Man 14, première apparition du Bouffon Vert, et d'ailleurs c'est l'un des seuls comics VO, on va dire, de valeur que je possède, quoi. J'ai un exemplaire chez moi.
C'est pas rien quand même.
C'est pas rien, ouais. Bon, ça coûte un peu cher, mais après c'est un choix, quoi.
Voilà. Ouais, mais bon, on pouvait pas passer à côté, parce que notamment le Green Goblin est devenu quelqu'un de tellement important dans l'univers Marvel.
Ah oui, et puis moi c'est l'un de mes personnages préférés. Moi j'ai une préférence pour les méchants généralement, tu vois, les super-héros je m'en fous finalement. Mes personnages préférés c'est souvent les méchants, et donc le Green Goblin, il est excellent. Puis en plus, première apparition à l'époque, il a pas son planeur encore en forme de chauve-souris, il a un espèce de balai, au fait, mécanique, qui est assez ridicule. Donc et puis il a vraiment la tête du Joker, au fait, sauf que bon, c'est un masque, mais voilà, il a vraiment la tête du Joker de l'époque, juste avec une colorisation un peu différente. Donc verte. Et voilà, donc l'épisode est super kitsch d'ailleurs, puisque au fait le bouffon vert lors de sa première apparition fait semblant d'organiser un film, au fait piège Spider-Man sur le tournage d'un film. Et parmi les figurants, on trouve notamment les Enforcers. Et là, Spider-Man se dit, oh mais c'est bizarre, je les connais ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font là, tu vois, sur le lieu du tournage. Et d'un seul coup, il se rend compte que c'est pas du tout un film qu'ils sont en train de tourner, mais que c'est effectivement qu'ils sont là pour l'éliminer, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même très kitsch.
Ouais, parce que je crois qu'ils avaient rencontré dans l'épisode 10 de mémoire les Enforcers.
Ouais, il les a rencontrés pour la première fois dans l'épisode 10 et ils sont à nouveau là. Et il y a également Hulk qui fait une apparition dans cet épisode. Donc il y a pas mal de beau monde.
Stan Lee s'en donnait déjà à cœur joie.
Oui, voilà, c'est ça. Ça fait un petit peu penser à du Jeff Loeb quand on lit ça. Mine de rien. C'est du grand n'importe quoi. Voilà.
Ah, c'est vrai que si t'avais pas choisi celui-ci, j'aurais été vraiment déçu quand même.
Ah oui, non, mais celui-là, ouais, c'est vrai que là, c'est tombé sous le sens. Et en plus, le 14, c'est mon anniversaire. Alors, je ne dis pas de quel mois, mais c'est le 14.
Du 14e mois, voilà.
Oui, voilà, c'est ça.
Ok, très bien. Après cette longue introduction, on va passer aux news.
Ah oui, alors en plus, on a pas mal de news. Tu commences ou je commence ou comme
Oui, vas-y, je t'en prie.
Donc alors, pas mal de news Marvel. Il y aura notamment une nouvelle série Thor qui va débarquer en novembre dans la gamme Astonishing. Donc tu sais qu'il y a Astonishing X-Men, Astonishing Spider-Man et Wolverine. Et bien maintenant, il y aura Astonishing Thor. On retrouve au scénario Rob Roddy et au dessin Mac Choi. Donc Mike Choi, je connais bien. Rob Roddy, je sais plus du tout ce qu'il a fait.
Moi non plus. Je me dis rien
et
du tout.
Ça racontera un petit peu ce qui se passe après Siege, au fait. Après Siege. Mmh. Voilà. Toujours à propos de Thor, ça te fait pas plus d'effet que ça de toute façon.
Non, parce que comme Astonishing, la gamme Astonishing est maintenant un truc totalement hors continuité.
Bah oui, mais justement, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils te disent que ça va suivre les événements de Siege, et pourtant, c'est censé être une gamme hors continuité. Donc c'est assez bizarre en fait.
Ouais, bah c'est Marvel quoi.
Oui, enfin voilà. Je sais pas. En même temps, je me doute que ça va pas durer longtemps cette nouvelle série. Juste le temps que le film sorte, et puis après elle va disparaître. Donc, toujours à propos de Thor, une nouvelle mini-série, ce sera Three Warriors. Donc Three Warriors qui débute... Pardon, je dis des bêtises. C'est une mini-série en trois parties, qui s'appelle Warriors 3. Voilà, et non pas Three Warriors. Qui débute en novembre, et qui sera scénarisée par Bill Willingham de Fable, et dessinée par Neil Edwards.
D'accord.
Et qu'est-ce que c'est les Warriors 3? Est-ce que tu as une idée?
Ah bah c'est Volstagg, et l'autre là.
Ogun et Fendral, voilà.
Fendral, voilà. J'ai du mal à retenir les noms. Volstagg, y a pas de problème, mais alors les deux autres.
Donc voilà, donc ça pourrait être sympa quand même d'avoir une mini avec ces trois-là.
Ouais. Puis écrite par Willingham, quoi.
Et écrit par Willingham surtout, quoi, le Fable, etc., donc qui nous fait une mini chez Marvel. On continue avec des tie-ins à Chaos War. Alors, on a annoncé Chaos War la semaine dernière. Il y a eu entre-temps une petite série de tie-ins d'annoncés. On va commencer avec... par laquelle? En octobre, donc on aura Chaos War Hades, donc une mini-série en 5, par Mike Hemming et Stephen Segovia au dessin. Et ça nous montrera, au fait, le retour de...
Ares.
Bah, probablement, ouais.
Mais donc, oui, de toute façon, si, la sollicitation oui. Dit que c'est le retour, complètement.
Oui, enfin, on dit le dieu tué lors de Siege, bon...
Déchiré en deux par le Sentry.
Oui, voilà, donc...
Mais finalement, en enfer, on peut s'échapper.
Ouais, donc, voilà,
semble-t-il. C'est comme ça qu'on ressuscite. Voilà, ce que je trouve parfaitement ridicule, de ressusciter un personnage 6 mois après sa mort. Voilà, Ares a commencé comme un personnage totalement antipathique, il a gagné un gros capital de sympathie tout au long des Dark Avengers et sa mort assez atroce qui l'a rendu encore plus sympathique. Et moi j'en avais un souvenir d'un personnage qui finalement n'était pas si chiant que ça, au contraire. Mm-hmm. Et là le fait de le ressusciter, ça me gêne vraiment quoi. Je sais pas, moi je comprends pas pourquoi on va le ressusciter, ça sert à rien.
D'accord. Ben, on verra en tout cas si la mini-série est intéressante, donc en 5 parties, faut voir. Voir l'histoire, quoi. Mmh. Il y aura également donc Fred Van Lente et Tom Grummett qui vont réaliser une mini-série en 3 qui s'appelle Dead Avengers. Ce sera pour novembre et ce sera donc un tie-in à Chaos War. On n'a pas plus d'informations là-dessus, donc Dead Avengers avec des Avengers morts, semble-t-il.
Ce qui me fait peur, c'est que du coup, vu ce qu'on sait sur Ares, Est-ce que Chaos War va pas être un moyen de nous faire une sorte de Blackest Night et de nous ramener pas mal de personnages?
Bah, ouf, en
Là, ça
fait,
commence à me faire peur.
le résumé que je t'ai donné la semaine dernière, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il y a toute une team de super-héros face à des forces, justement, le dieu de l'enfer ou je sais pas quoi là. On va y venir tout à l'heure, de toute façon, puisqu'il y a une mini-série consacrée à lui, qui lui est consacrée, devrais-je dire. Donc, on aura aussi un one-shot, Chaos War Alpha Flight. Et au fait, avec l'équipe donc de la division Alpha, qui est justement, comme tu le disais, décédé lors de New Avengers 16. Donc, effectivement, ça pourrait être un retour de cette équipe.
Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers un Blackest Night, quoi. Enfin, ou
Ouais,
plutôt
ouais.
un Brightest Day, en fait, en quelque sorte.
Vous voyez, enfin, une espèce de réponse de Marvel à DC. Mais enfin, ça a l'air du grand n'importe quoi, quand même, Chaos War, d'une manière générale. Riley Brown sera au dessin. On n'a pas le nom du scénariste encore sur cette mini. Autre mini-série, en deux épisodes, par JM DeMatteis au scénario et Brian Ching au dessin, c'est Chaos War Thor. Donc, bon, bah, encore du
Putain,
Thor.
mais qu'est-ce qu'on bouffe comme tort là?
Ah bah,
Ah, il y a le
film
film qui
oblige.
arrive, hein? Ouais, ça se
Voilà.
voit.
Voilà. En décembre, Chaos War God Squad. C'est un one shot, hein, juste un one shot. Toujours tie-ins à Chaos War évidemment, de Mark Summerack et de Dan Panosian au dessin. Alors,
Ah tiens, Dan Panosian au dessin.
ah, tu connais
Oui,
Dan Panosian?
c'était un encreur notamment, qui a ancré pas mal de choses. Mais il a fait du dessin de temps en temps, mais là, le voir revenir au dessin sur un projet Marvel, c'est sympathique.
D'accord. Donc, on termine avec un tie-in en novembre, un one-shot Chaos War, Chaos King par Brandon Monclar et Michael William Kaluta qui montrera au fait bah, qui est Mika Boshi, le fameux ennemi ultime qu'ils affrontent, enfin que les héros affrontent durant Chaos War. Donc là, on aura le droit à toutes ses origines dans ce one-shot a priori.
Donc Chaos War, tu m'as dit, commence en novembre, c'est ça?
Chaos War, alors je l'ai dit la semaine dernière. Reportez-vous au Comics Weekly de la semaine dernière, les amis.
Non, mais je peux pas l'écouter là. Là tout de suite, on enregistre.
Je sais plus, non, je crois que c'est en octobre plutôt. Enfin, en tout
D'accord,
cas,
parce que...
y a un tie-in en octobre, avec
Ouais,
déjà qui
d'accord,
commence
ok.
avec
Parce que
Ares.
j'allais dire, on finit à peine Shadowland et bam, on va entrer directement dans Chaos War, donc crossover sur crossover.
Ouais.
Faut laisser le temps de respirer aussi, quoi.
En même temps, c'est pas la même chose, hein.
Non,
C'est
c'est pas la même
vraiment.
chose, mais gros event sur gros event avec plein de tie-in, il faut nous laisser le temps de respirer si on veut que ça marque l'esprit, quoi.
Et en plus de ça, il faut préciser que Incredible Hulk sera tie-in à Chaos War dans enfin des numéros 618 à 620.
Ah, trois
Et
quand même.
on nous promet, enfin a priori, le retour de l'Abomination.
D'accord, exit
Donc,
A-bomb.
et oui, puisque peut-être Exit A-Bomb, mais surtout l'Abomination qui est mort. Donc peut-être effectivement là le moyen de ressusciter pas mal de monde avec ce Chaos War.
Ouais, Brightest Day, quoi.
Brightest Day, ouais. Et alors, on reste parmi les Hulk, juste pour t'annoncer qu'en novembre, eh bien, Harrison Wilcox et Ryan Stegman enfin, au scénario et au dessin, lancent une nouvelle série She-Hulks, donc avec un S, où au fait, on retrouvera donc She-Hulk, bien sûr, et aussi Lyra, donc la fameuse Savage She-Hulk, qu'on a pu voir récemment, notamment dans Incredible Hulk, mais en VO, puisque en VF,
On n'y a pas eu droit.
on n'y a pas eu droit, voilà,
Alors ça se trouve
exactement.
c'était pas bien parce que je les ai toujours pas lus. J'ai pas eu
Alors,
le temps.
en tout cas, le retour de She-Hulk, c'est pour novembre. Petite nuit. Alors, je vais te laisser partir sur.
Juste un truc à rajouter sur Marvel qui vient de me revenir.
D'accord.
Au cas où vous ne le sauriez pas encore, Ultimate Spider-Man reprend sa numérotation originale à partir du
Oui.
numéro 150.
Oui, oui, oui,
C'est
oui, oui.
magnifique, c'est bien la preuve que la branche Ultimate Comics, c'est du n'importe quoi, ce gros relaunch. Voilà. Donc c'était juste pour rigoler 2 minutes.
Voilà, ça fait son effet.
Voilà.
Du côté de l'indé, on part du côté de chez Angel. Angel, c'est un personnage qui est publié chez IDW. Eh bien, Angel débarque à partir de novembre chez Dark Horse.
Ah
Et au
oui.
fait, eh oui. Et au fait, les deux éditeurs travaillent de concert pour que Angel arrive donc chez Dark Horse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la fin d'un crossover en novembre. Et qui annoncera le début du crossover suivant, qui lui sera publié chez Dark Horse. Donc
Je
c'est
pense
quand
que
même
tu voulais dire arc et pas crossover.
Arc, oui, effectivement.
Oui, c'est la fatigue. Ça,
Voilà.
on enregistre, faut savoir qu'il est déjà 10 heures.
Voilà. Donc vous m'avez compris. Hein. Et donc nouvelle équipe créative. Oh là là, on n'y arrive plus. Donc c'est plus Bill William justement qui scénarisait avant Angel. Maintenant c'est David Tishman qui prend la relève et Maria Henner. Ou Henner, je sais pas comment on le prononce. Pour les dessins, donc le premier arc sera en 6 épisodes. Ce sera baptisé The Wolf, The Ram and the Earth. Voilà.
Oh bah oui, Wolfram and Heart. Tu sais.
Voilà.
Je sais pas si tu as déjà vu la série Angel.
Très peu et il y a longtemps. Donc.
Bah c'est le nom de la grosse compagnie qui les embêtait, Wolfram and Heart.
D'accord, ok.
Voilà, c'est pour ça. Donc très joli jeu de mots. À savoir quand même qu'Angel au départ était publié chez Dark Horse et ensuite ils ont perdu la licence et elle atterrit chez IDW. Et donc du coup elle retourne chez Dark Horse. Mais c'est vraiment rare de voir un éditeur qui prépare le passage chez un autre éditeur. C'est vraiment, vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Mmh. Si ça peut apporter de nouvelles... Enfin, en tout cas, si ça peut donner l'idée à d'autres compagnies de faire la même chose quand une série passe d'une compagnie à une autre, ça pourrait être pas mal.
Et on va peut-être terminer avec du DC.
Oui, bah oui, terminons avec du DC.
Donc, Batwoman revient, enfin Batwoman, le personnage revient, mais avec cette fois-ci une nouvelle série qui démarra en février 2011.
Ah bah on c'est annoncé à l'avance là.
Oui, oui, on retrouve G.H. Williams 3, donc G.H. Williams 3 qui sera, on le rappelle, au Lille Comics Festival, enfin normalement, hein, bon, d'ici qu'il décommande, on n'espère pas, mais il devrait y être en tout cas. Et un numéro 0 va sortir en novembre pour donc présenter le personnage à ceux qui ne le connaîtraient pas encore.
C'est pour ça qu'ils annoncent ça maintenant en fait.
Voilà, exactement. Donc les couvertures seront de G.H. Williams 3 et de Amy Raider.
D'accord. Ouais. Bah, ça peut être sympathique. Hein. S'il bah, connaît cas, bien la... le personnage quand même.
Oui, puis la série est très bons échos de Detective Comics. Mm-hmm. Donc retrouver ce personnage maintenant dans sa propre série, dans son propre titre, ça ne peut être que, à mon avis, intéressant quand même.
Est-ce que le personnage sera aussi bon sans Greg Rucka ?
À voir, ouais. À voir. Parce que qui scénarise ça justement ?
Bah, justement, c'est J.H. Williams qui va scénariser lui-même.
Qui fait et scénario et dessin en fait, c'est ça.
Voilà. D'accord. Mm-hmm.
Bah, à voir. Justement, on pourra peut-être lui poser des questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Si on le voit à Lille. Donc, on verra.
Bien, donc c'est après cette très longue intro et cette grande partie news qu'on va enfin attaquer la double review de la semaine.
Ouais.
C'est une double review Marvel et c'est Wolverine Weapon X numéro 16. Alors, à défaut de lire du Wolverine dans Comic City,
voilà,
on lit dans le Comics Weekly, voilà.
C'est ce que j'allais dire, au fait, les auditeurs diront, bah, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font du Wolverine dans Comics Weekly et pas dans Comic City. Bah ouais, on s'est dit, tiens, on va essayer le dernier Weapon X.
Bah oui, voilà, parce que comme tu dis, c'est le dernier de la série.
Voilà, avant le lancement de Wolverine, numéro
Volume
1.
4, numéro 1. Volume voilà. 4, putain. Mmh. Volume 4. Mmh. Énorme. Au scénario, Jason Aaron et au dessin, David Gianafelice.
C'est moche.
C'est moche, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment pas bon.
Je suis désolé, là, l'avis est tranché, mais je trouve ça laid.
Ah bah de toute façon, on n'est pas les seuls à dire que c'est moche. Hein. Franchement, j'ai été voir pas mal de reviews sur Internet et tout le monde vomit dessus.
Oui, bah c'est moche.
Non, c'est pas beau, quoi, franchement.
Alors j'en rajoute une couche, c'est très très moche.
Allez, vas-y.
Allez,
c'est vrai que non, c'est un dessin pas heureux du tout.
Et bon, et puis alors, le scénario...
Donc c'est Jason Aaron, hein.
Bah oui, non, enfin c'est Jason Aaron, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous a fait, du moins sur son premier arc. Là, on n'est plus du tout dans le truc d'action Wolverine contre des méchants pas beaux de la main ou de je ne sais quoi.
Ah bah si, il y en a de l'action, attends. Wolverine construit un radeau. Attends, il y a de l'action, quoi.
Il construit un radeau, je l'ai même loupé, celle-là.
Pour que le piano glisse. Il se fait un truc en rondin de bois.
Ah c'est vrai, oui.
Alors, il y a de l'action, alors... il y a de l'action, franchement.
Bon alors attends, je vais résumer alors. J'ai résumé. Ouais, parce que le mauvais esprit, ça va bien 5 minutes. Non, je plaisante. Donc alors, c'est simple. Diablo, alias Nightcrawler en anglais, est décédé durant Second Coming. Est décédé donc il y a quelques mois, donc ce n'est plus un spoiler. Hein, puis en plus il est sur la couverture, donc de toute façon on pouvait pas passer à côté.
Non, mais de toute façon, c'était il y a 3 mois, c'est plus un spoiler.
Oui, voilà. Et puis, bon, si vous écoutez Comics Weekly quand même, hein, bon, après 3 mois, il y a prescription.
De toute façon, on a bien prévenu pour les lecteurs français que si vous écoutez Comics Weekly, on parle de la VO, donc faut pas s'étonner si on est spoilé, quoi.
Et donc, Nightcrawler, au fait, lui a laissé une dernière chose à faire, une sorte d'héritage.
Un testament, en fait, ouais.
Un testament, ouais, voilà.
Une dernière volonté pour Wolverine à accomplir.
Voilà, exactement. Et donc, cette dernière volonté, c'est que Wolverine amène un piano. Un piano à queue, un piano...
D'une valeur de 20 000 dollars.
D'une valeur de 20 000 dollars.
C'est bien répété plusieurs fois, d'ailleurs.
C'est bien dit et répété, de toute façon. Donc, effectivement, d'une valeur de 20 000 dollars, et il doit la porter dans un pauvre coin perdu, au fait, sur une espèce de montagne... alors, je sais plus dans quel pays.
Au Venezuela.
Au Venezuela ?
Ouais.
Alors, au Venezuela, donc, dans une espèce
de... l'église de la Sainte Ascension.
Exactement. Ouais, une espèce de monastère, en fait, perdu dans la montagne. Il n'y a aucune route. Alors ça, j'aime bien aussi. Il n'y a aucune route pour y aller. Donc on se demande comment eux peuvent faire pour se barrer si un jour ils veulent se barrer.
Bah, il faut qu'ils traversent la jungle.
Voilà, faut qu'ils traversent la jungle, faut qu'ils dévalent la montagne sans route. Bref, donc Wolverine porte ce piano à bras le corps durant tout l'épisode. Il se le traîne.
En fait, il commence à le porter avec un espèce de truc qui flotte un peu comme le siège de Xavier façon années 90. Mmh. Mais comme il pleut, le truc est mort. Et donc après, il faut qu'il le traîne. Donc déjà, c'est quand même ridicule parce que, ok, Wolverine, il est balèze. Mais enfin, tirer un piano, quand même. Hein.
Donc ça lui met 8 jours, je crois. Hein. Je crois que c'est ce qu'il dit.
Bon, quand on le voit faire de l'escalade avec un piano qui le tire en arrière, bon, ok, c'est Wolverine, mais enfin quand même, quoi.
Ouais. Et donc après, il se plaint d'avoir chopé plein de maladies durant son périple aussi.
Ça m'a fait marrer. Le mec dit, je crois même que j'ai eu la malaria ce matin.
Ouais, voilà. Mais comme il cicatrise, comme il se régénère, de toute façon, c'est Wolverine, donc voilà, donc il survit. Mais du coup, durant tout son périple, ça lui permet de repenser à plein de moments qu'il a passé avec Nightcrawler, et où Nightcrawler lui tenait des discours sur les croyances, les religions, l'importance de croire en quelque chose, quoi, tout simplement.
C'est notamment sur la mort en elle-même et ce qu'il y a après.
Voilà. Et Wolverine a toujours été sceptique, et là, il est en train de se dire que son ami de toujours essaye de lui donner une leçon, en fait. Une leçon post-mortem, on va dire.
Oui.
Et je te laisse finir, puisque tu me dis qu'il se passe quelque chose à la fin d'Extraordinaire, et j'ai complètement loupé, alors...
Mais en fait, ce qui se passe, donc on spoil, mais de toute façon, il y aura le tag de marqué spoiler dans le minutage. De toute façon, si vous l'écoutez, si vous voulez vraiment pas savoir la fin de l'histoire, zappez à la partie suivante. De toute façon, on va donner tout de suite notre note, comme ça vous pourrez avoir la note avant de zapper. C'est un pass. Pour moi, en tout cas.
Oui. Voilà. Oui, enfin, on va dire, c'est une jolie histoire, mais dans le sens vraiment vite fait, quoi.
C'est absolument pas essentiel, donc.
Non, voilà, pas essentiel du tout.
On sait jamais, on verra. Mais bon, pour moi, c'est un pass. Bien, alors maintenant, la partie spoiler. Donc, si vous voulez vraiment pas l'entendre, zappez jusqu'à la prochaine review. Vous êtes prévenus. À la fin de ce périple, donc, Wolverine arrive, bien sûr, à livrer le piano. La petite vanne du prêtre, oui, mais on a personne qui sait jouer du piano ici. Donc ça, c'était très drôle.
Voilà, ça, c'était, à mon avis, prévu de... Enfin, Nightcrawler avait prévu le coup, justement.
Et donc là, il apprend, en fait, que Nightcrawler a aidé à construire l'église il y a de ça un an, je crois, si j'ai bien compris. Donc l'église est toute récente. Et... il avait donné au prêtre un morceau de métal. Il a dit, vous saurez à qui le donner quand il viendra. Et donc, il lui donne. Et c'était un des morceaux de métal qu'il présentait à Kurt dans une des séquences flashback que l'on voit au début de l'épisode, où il dit, quand tu seras mort avec un truc comme ça en pleine tête, on verra bien s'il y a les anges qui arrivent et si Dieu vient te chercher pour t'amener au paradis.
Ouais.
Et le fait qu'il lui donne ça, après tout ce qu'il a vécu, après tout ce à quoi il a repensé, etc., et ben là, en fait, tu vois Wolverine regarder vers le ciel sur une pleine page en disant à Kurt, oui, t'as gagné. Et ce t'as gagné veut dire, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, que finalement il commence à croire qu'il y a quelque chose après la mort, un paradis et un enfer.
Oui, mais enfin, alors attention, parce que Wolverine, faut pas oublier, et en plus, ce qui est très étrange, c'est que c'était une saga de Jason Aaron avec Howard Chaykin au dessin, il me semble, où t'avais Wolverine, tu sais, qui mourait, et à chaque fois, il devait affronter un espèce de mec qui s'appelait, pas Azrael, mais un truc comme ça, Eraser, ou je sais pas quoi, et tu vois, c'était un espèce de duo qui devait affronter, justement, à chaque fois qu'il mourait. Ça te dit rien?
J'ai pas lu ça.
T'as pas lu ça, mais c'était... C'était il y a peu de temps en VF dans les Wolverine avant
Wolverine je suis pas vraiment hein, tu vois.
Ouais enfin, voilà et donc ça dira probablement quelque chose aux auditeurs mais justement il me semble que c'était Jason Aaron bien alors attends. Oui, je crois qu'il a fait ça et puis Get Mystic au fait. C'est les deux sagas qu'il avait fait sur Wolverine et dans celle-là en tout cas on voyait que il y avait quelque chose après la mort du coup. Donc c'est un petit peu bizarre que là Wolverine, malgré ça, n'y croit pas, quoi, du tout.
D'accord. Ouais, ben moi, j'étais pas au courant de cette saga, donc c'est vrai que là, ça change les choses. Mais pourquoi je dis que ça peut être intéressant, c'est pour ce qui va venir ensuite. C'est-à-dire que là, la série s'arrête, toutes les séries Wolverine se sont arrêtées. En septembre, relaunch de Wolverine, hein, comme je disais, Wolverine volume 4, numéro 1, qui sort le 1er septembre, mais avec le titre d'une saga qui s'appelle Wolverine Goes to Hell.
Ouais, comme
Wolverine
Jason.
Wolverine va en enfer. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que il y a quand même un lien avec ce dernier épisode. C'est parce que de toute façon, plusieurs fois dans l'épisode, il dit de toute façon, s'il y avait quelque chose, moi avec ce que j'ai fait dans ma vie, j'irais en enfer.
D'accord. Non mais au fait, j'avais compris le truc aussi comme toi finalement, mais
d'accord,
en fait, je m'attendais, je pensais que t'avais vu un truc encore plus énorme que ça, quoi,
en fait,
tu vois.
Il y a peut-être un début de croyance en Dieu pour Wolverine, ce qui pourrait changer le personnage, ou pas du tout. De toute façon, à mon avis, je pense pas que les scénaristes vont en tenir compte par la suite.
Tu penses qu'il va devenir un petit peu à la Nightcrawler, quoi,
Non, pas à ce point-là. Bah, j'espère pas, parce que ce serait chiant. Ce serait franchement chiant. Ça irait pas du tout avec le personnage de Wolverine. Mais en tout cas, le fait qu'il croit peut-être en un dieu, en tout cas, qu'il envisage cette possibilité, pourrait peut-être modifier légèrement l'attitude du personnage et peut donner quelque chose d'intéressant. Bon, de là, ce qu'il devienne prêtre, faut peut-être pas déconner, quoi. C'est ridicule. T'imagines un prêtre avec des griffes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est naze.
On va avoir bientôt un nouveau volume, ça s'appellera Preacher Wolverine.
Ce sera écrit par Garth Ennis, non?
Oui, tiens, ça serait bizarre. Tiens. Comme c'est bizarre. En tout cas, un pass et Wolverine Goes to Hell. Enfin, ça me fait gentiment rire. Ça me fait aussi penser un petit peu à Spawn, quoi. Faudra voir ce que ça donne, mais.
Bah, on verra. Ce sera peut-être en double review puisque la même semaine que le Wolverine 1 sort aussi un one shot Wolverine Road to Hell.
Ouais.
Donc, voilà. La semaine suivante, on a Daken Dark Wolverine numéro 1 et la
Highway
semaine
to Hell.
D'encore après, Wolverine. On a X-23 numéro 1.
Wolverine Highway to Hell avec des motards puisque Wolverine est aussi un ancien motard
avec en bande son du AC/DC oblige.
Mais voilà exactement.
Donc, voilà. Donc c'est un pass. Hein.
Donc j'aime bien prédire après avoir dit tout ça. Donc c'est un pass.
Non mais voilà, il y a ce petite fin qui peut-être peut remonter le niveau en fonction de ce qui va être fait ensuite, mais peut-être pas.
D'accord. Moi je suis d'accord avec toi de toute façon. On va enchaîner, on va essayer d'aller très vite parce que on a mangé du temps. Alors, je commence, Steve.
Eh bien vas-y, je t'en prie.
Donc je vais vous faire rapidement, au fait, une double solo review plus Alpha 30.
Ouais, comme la semaine dernière, quoi.
Voilà, le même truc que la semaine dernière. Donc très rapidement, on part chez DC, le Supergirl 55. Sachant que si Wolverine est la star des relaunchs, Supergirl est pour le moment devant, puisque c'est déjà le volume 5 de Supergirl.
Oh, il y a pire, il y a la Légion, qui en est son volume 6. Ou 7. 6.
Voilà.
Je suis sûr qu'on peut trouver plus.
Certainement. On fera le jeu si vous trouvez le No Prize, encore un No Prize Comic City, si vous trouvez qui a le plus de relaunch, ou le plus de volume à son actif.
Bah, donc, Punisher, qui en est à son V8.
Bon, allez. Qui dit mieux? Donc, Supergirl 55 de ce volume 5. Épisode est signé Sterling Gates au scénario et Jamal Eagle au dessin. Que dire? Bah, c'est très simple. Au fait, Bizarro Girl débarque sur Terre. Donc on voit grosso modo ses origines. Au fait, elle débarque de la même planète que Bizarro, c'est-à-dire elle vient du Bizarro World. Donc ses origines sont assez marrantes, je vais pas en dire plus, mais c'est assez comique dès le début. On arrive ensuite en pleine bagarre donc contre Supergirl. L'essentiel de l'épisode d'ailleurs, c'est une grosse baston entre Supergirl et Bizarro Girl. C'est très comique, hein, quand même. Il y a beaucoup de moments qui prêtent à sourire. Il y a notamment un moment totalement ridicule où Bizarro Girl court dans un champ en balançant des fleurs au-dessus d'elle en disant « Qu'est-ce que c'est moche, j'adore ça !» Enfin bon,
c'est du Bizarro.
Voilà. Et
c'est
donc
aussi chiant à lire que du Zatanna quand elle fait des formules.
Ah ouais, mais
c'est plus drôle. Il faut tout transformer à l'inverse, c'est horrible.
Oui, mais c'est plus drôle quand même, c'est plus drôle. Arrive un personnage, une autre super-héroïne DC, je vais pas dire qui vient prêter main forte à Supergirl. Et là, Supergirl prend une décision, très surprenante par rapport à Bizarro Girl. Et bah, je crois que je vais m'arrêter là, Jean-Pierre, dans cette review. Voilà.
Salut, tu m'as trop teasé, maintenant j'ai envie de savoir.
Voilà, donc Supergirl prend une décision assez surprenante et décide de faire quelque chose par rapport à Bizarro Girl. Et la suite, j'ai envie de dire, au prochain numéro. Donc c'est pas un one shot, hein, ça se suit.
Et vous pouvez
sympa.
Savoir si vous relisez le Superman numéro 700 qui teasait tout ce qui va se passer dans Supergirl, Superboy ou encore Action Comics pour l'année à venir.
Voilà, mais en tout cas c'est très sympathique à lire, c'est frais, c'est voilà. Franchement, j'ai pas lu beaucoup de Supergirl jusque-là, hein, je dois dire, je dois l'avouer. Mais en tout cas, ça donne envie de lire la suite et de s'y mettre. C'est au moins aussi sympa que Action Comics. Bon, Action Comics c'est un peu plus surprenant encore, hein, avec Lex Luthor comme personnage principal. Mais en tout cas, la gamme Superman est bien sympathique, à l'exception peut-être du Superman de JMS.
Ouais, le flagship title qui finalement n'est pas si bon que ça.
Oui, voilà, ce n'est pas si bon que ça. Je sais pas si t'as regardé l'épisode 2, enfin l'épisode 2.
J'ai regardé les 5 premières pages. Voilà.
Non,
je
bah,
me suis arrêté là, il faut que je lise, il faut que je prenne le temps de le lire, au moins voilà. Pour pouvoir dire je l'ai lu et pouvoir dire si oui ou non c'est de la merde. Mais voilà. Bon, il faut que je le dise, il faut que je trouve le temps. Quoi.
Bon. Sinon, on va partir sur...
Bye, check it ou pass.
Ah oui, bye. Puis c'est le moment, en fait.
Carrément.
C'est moi qui n'ai pas lu beaucoup de Supergirl, prendre ce numéro-là, c'est un bon jumping point pour commencer. Alors, par contre, il y a quelques petites références à Bizarro World, qu'on n'a pas eu en français, qui était de Geoff Johns, qui était une saga en trois parties, je crois, dans Action Comics.
Qui se passe un petit peu avant la saga sur la Légion. Je crois que c'est d'ailleurs l'arc juste avant l'arc sur la Légion, si ma mémoire est bonne.
Que j'avais lu en VO et qui est très drôle. Et bah bien dommage, on l'a pas eu en français, donc bon, à voir si on peut récupérer ça en TPB américain, parce que c'est quand même une lecture bien sympathique.
Bon, les singles doivent être peut-être encore trouvables, pas trop cher.
Oui, aussi, oui. Je continue une review, on va dire un peu plus express, avec le Hulk 24, qui est au fait le dernier chapitre de Jeff Loeb et Ed McGuinness sur la série. À partir du 25, on retrouvera Jeff Parker pour 6 numéros, certainement, avant qu'il passe la série. Attends, j'espère pas, hein. c'est un joke, un running joke.
C'est le running gag de Comic City, de Comics voilà. Weekly.
Bon, il y en a plusieurs, mais il en fait partie malheureusement, le pauvre maintenant.
Ouais,
Jeff Loeb et Ed McGuinness, je l'ai déjà dit, au scénario et au dessin, c'est pratiquement tout ce qu'il y aurait à dire de ce numéro-là, puisque grosso modo, ça termine le run en grosse baston, Hulk rouge versus Hulk vert. On a aussi du She-Hulk contre Red She-Hulk. C'est vraiment du Jeff Loeb en mode vacances. C'est-à-dire qu'un coup sur deux, enfin même plus que ça d'ailleurs, le numéro 23 était bon. Honnêtement, il était vraiment sympathique à lire. C'était sur les origines du Red Hulk. Mais celui-là, c'est le Jeff Loeb qui fait que du la baston. Donc bon. Alors encore là, on nous a épargné les guest stars qui sortent de nulle part.
Ah normal, on a fait qu'une grosse baston entre Hulk et Hulk. Donc
ouais,
fallait
voilà.
Que ce soit épique, quoi.
Fallait que ce
il
soit.
Il
ne
pas y en avoir d'autres.
Ouais, enfin, il y a quand même Red She-Hulk et She-Hulk qui apparaissent sur très peu, hein, cela dit, hein, qui apparaissent comme ça vraiment rapidement. Mais la baston en elle-même est pas mal, hein, pour du Hulk. C'est vraiment du pur Hulk. Et alors, mention spéciale au dessin de Ed McGuinness, qui sont, je trouve, encore mieux que d'habitude. J'ai vraiment trouvé ces dessins superbes, au fait.
Je l'ai feuilleté très rapidement, mais je me suis arrêté sur cette double page du coup final de Hulk.
Ouais.
Superbe.
Ah. Tu te trouves aussi, oui. Non, parce que moi, je Ed McGuinness, faut savoir, il y a quelques années, je m'en foutais. C'était pas vraiment mon style. Et puis là, avec notamment Hulk et quelques petits autres trucs, franchement, il a vraiment pris du galon, quoi, dans ma liste des.
Ben, je te conseillerais de relire le premier ongoing de Deadpool. Où justement,
ah oui,
c'était Ed McGuinness au début et c'était vraiment pas mal avec ce côté cartoony. Ça correspondait très bien à Deadpool.
Voilà. Et ben en tout cas, donc ça se termine, disons, sans surprise, hein, par la victoire de, on s'en doute, hein. Voilà. Donc du Red Hulk, bien sûr. Non, je plaisante. Bah vous verrez, hein, de toute façon. La fin est assez convenue et annonce notamment que
Red Hulk, tous. Voilà.
Oui, voilà, Red Hulk va bientôt rejoindre les Avengers. Donc voilà, voir ce que ça va donner. Donc une fin sans grande surprise. Les grosses surprises, c'était pour le numéro précédent. Là, c'est vraiment de la grosse baston, mais quand même. Pour moi, c'est quand même un bail, car les dessins, pour une fois, m'ont tellement plu que c'est vraiment du, comme on dit, du Hulk qui tape, mais c'est aussi ça, Hulk. Donc voilà, quoi. Pour les dessins de McGuinness, pour moi, ce serait un bail.
Ok.
Bah, bon, et puis, si vous avez acheté le numéro de précédent, autant acheter celui-là, quoi. Qui clôture le run, de toute façon. Donc voilà.
Bien.
Un bail ou un check-it, on va dire, allez.
Ouais. Non, mais t'as le droit, non, je me préparais en fait mentalement pour ma prochaine review.
D'accord, donc bah vas-y, hein, je t'en prie, enchaîne.
Bien, et ben on va faire le running event de Comics Weekly en ce moment. C'est donc une partie de Shadowland.
Ah bon, encore
On en avait deux cette semaine. J'ai choisi Shadowland Power Man numéro 1 parce que j'étais intrigué en fait. Un Power Man, un autre Power Man. Mon dieu.
Oui.
Écrit par. Ouais, voilà. Écrit par Fred Van Monty, dessin de Mahmoud Asrar et ancrage de Scott Hanna. À savoir déjà que ça se passe avant Shadowland 2. Et chose très 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 bien. Comme tu nous l'avais dit la semaine dernière, Bunny, on avait l'explosion qui nous permettait de nous situer dans le temps par rapport à Shadowland 2, sur les deux mains que tu avais lues la semaine dernière. Cette semaine, on a encore...
Ça commence là-dessus, non ?
Non, ça se passe même encore avant.
Ah,
on
n'a
pas cette explosion. On voit Iron Fist aller recruter Shang-Chi. Et on voit Luke Cage aller recruter Spider-Man pour justement le petit passage dans le castle de Daredevil.
Oui, d'accord, ok.
Que l'on voit dans Shadowland 2. Donc d'accord. Ça permet de situer... Franchement, c'est vraiment très très bien de pouvoir avoir une continuité comme ça. Ça prend une case à définir. Mais voilà, avec cette case-là, on sait à quel moment ça se passe et on peut lire tout dans l'ordre si l'on a envie.
Oui, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un event avec autant de continuité aussi précise et aussi bien amenée.
Alors, je sais pas si ça vient d'Andy Deagle qui doit chapeauter pas mal au niveau scénario de tout l'event. Est-ce que ça vient des éditeurs? Puisqu'il y en a pas, on a regardé, il y en a plusieurs, donc, il n'y a pas qu'un seul éditeur. S'il y avait eu qu'un seul éditeur, ça aurait pu être lui, enfin, ça aurait sûrement été lui qui avait bien géré le truc. Je sais pas grâce à qui on a cette bonne continuité, mais en tout cas, franchement, bravo. Moi, je suis vraiment content de voir au moins qu'on respecte le lecteur un minimum et qu'on lui dit pas, démerde-toi à savoir quand ça se passe, tu te fais ta propre continuité dans ta tête.
D'accord, ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est sympathique. Mais alors, est-ce que l'histoire est intéressante pour ce tie-in ?
Eh bien, alors, je suis partagé. Je suis partagé parce que y a des choses qui m'ont plu. Découvrir un nouveau Power Man qui pique le nom donc à Luke Cage. Donc, on se doute bien, comme j'ai parlé, qu'il y a Iron Fist et Luke Cage dans cet épisode qui vont essayer d'aller le voir un petit peu pour lui dire, qu'est-ce que tu fais avec mon nom ? On a un final super surprenant qui m'a vraiment donné envie de lire le 2. J'en dirai pas plus parce que je veux vraiment pas spoiler, le final est vraiment surprenant.
Ouais.
Maintenant, il y a des choses qui m'ont moins plu, notamment qui est ce Power Man. C'est un latino. J'ai pas noté son nom d'ailleurs, désolé, j'ai oublié, complètement oublié, puis je l'ai pas noté, donc voilà. Alors déjà on a vite fait ses origines. Power Man est apparu au moment de l'explosion du bâtiment orchestré par Bullseye dans Daredevil The List. Enfin, The List Daredevil, pardon.
Remarque, c'est pas mauvais comme idée de boucler la boucle comme ça.
Voilà, il ressort du bâtiment, on le voit sortir du bâtiment, complètement plein de lumière jaune, etc. Et voilà, c'est un des seuls survivants de cette explosion. En tout cas, ouais, ça lui a filé des pouvoirs.
D'accord, il porte sur lui le poids, de tous les morts, quoi, on va dire.
Voilà. Et donc lui, il travaille dans sa communauté en tant que super-héros pour faire dégager les dealers des rues, pour faire tout ça, mais il se fait payer.
D'accord. Voilà, donc un petit peu plus retors, on va dire que le Power Man d'origine, quoi.
Voilà.
C'est ça bénévolement, on va dire.
Exactement. Voilà. Donc il utilise le concept du Power Man à faire régner un petit peu la loi dans la rue. On dégage les dealers, mais en fonction de qui lui demande.
D'accord.
En fait, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir le Blue Beetle Jamie Reyes, quoi. C'est vraiment le même stéréotype, c'est-à-dire le petit gamin latino qui est dans un quartier pas forcément super facile. Bon, là, on n'a qu'un épisode, donc c'est difficile de voir si ça va vraiment partir dans cette direction-là ou pas. Mais j'ai vraiment eu l'impression de voir Blue Beetle, en fait. Et ça m'a gêné.
D'accord.
Mais sinon, l'épisode est pas trop mal. Je dirais que c'est un check-it pour le moment. C'est pas un buy, c'est un check-it. Parce qu'il y a un final où justement Iron Fist et Luke Cage vont voir ce Power Man et il se passe un truc qui franchement m'a vraiment donné envie de lire le 2. Même si on peut s'y attendre un petit à la réponse.
Ok.
Voilà. Donc franchement, meilleure surprise que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas non plus le tie-in du siècle.
Voilà. Okay.
Et pour le moment de Shadowland, à part les ninjas de la main qui font une apparition, on voit aussi d'ailleurs un truc, c'est que ce Power Man a des pouvoirs bizarres, c'est-à-dire qu'il défonce des gens de la main, mais ces gens de la main ne disparaissent pas en fumée, contrairement aux autres.
Ils disparaissent comment alors ?
Ils disparaissent pas.
Ah d'accord. Ok.
Voilà, parce que
Mais alors, est-ce que
normalement,
c'est une
généralement,
erreur inhérente du...
non, justement, c'est pas une erreur. Eux-mêmes le disent. Comment ça se fait qu'on n'a pas disparu en fumée? Et donc ils essayent d'enquêter aussi. Donc c'est-à-dire que il est un peu traqué par Iron Fist et Luke Cage, traqué par les gens de la main. Voilà. Ben, y a quelque chose. Fred Van Lanty s'en sort pas mal. Moi, je dis ce qui me fait peur, c'est ce syndrome Blue Beetle qu'on a déjà vu il y a quelques
Ouais,
années chez DC.
puis surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est tous ces nouveaux personnages qui risquent fort de disparaître très rapidement, parce que un Power Man, sachant que l'autre n'est pas mort, est-ce qu'on avait
Oui,
vraiment
mais il
besoin d'un
n'utilise
second
plus.
Power
Oui, mais
Man?
il n'utilise plus du tout le nom Power Man. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise idée de ramener un nouveau Power Man. Maintenant, faut voir ce que ça va donner d'ici la
Oui, puis
fin de la
surtout,
mini.
maintenant, il est avec les Avengers, il est avec les Thunderbolts, donc
Voilà. Et
effectivement,
puis il se fait vraiment appeler Luke Cage. Plus du tout personne, enfin plus
c'est vrai.
personne ne l'appelle Power Man, vraiment.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc,
Puis il a plus le diadème qu'il avait.
Alors les couleurs du Power Man sont légèrement différentes, mais rappellent un petit peu les couleurs qu'avait Power Man à l'époque. D'ailleurs, on voit un pimp, donc un macro
Mais
dans
il a pas le
passé.
diadème.
Non, il a un casque et tout, mais au niveau des couleurs, c'est du orange, quoi. C'est assez proche. Même si
D'accord.
le costume est totalement différent. Mais il y a un pimp habillé façon Power Man, ça m'a fait un peu rire.
Ok.
Voilà, donc un check-it. Un check-it. J'attends de voir le 2 parce que je suis quand même intrigué pour ce final qui vraiment m'a surpris. Et m'a fait
Ok.
rire en même temps.
D'accord. C'est plutôt une bonne chose.
Voilà, je te repasse la parole pour ta deuxième review solo.
Ouais.
Ou
Deuxième.
troisième.
Oui, enfin oui, on va dire ça. Troisième review, donc c'est le Avengers Academy numéro 3. Le scénario est de Christophe Gage, les dessins de Mike Mahon, donc toujours les mêmes. Et bah c'est toujours aussi bon, en tout cas. C'est toujours aussi bon. C'est pour moi peut-être bien la meilleure série Avengers du moment. Donc on se le dise. Ce numéro 3 le confirme bien. Alors je sais pas si maintenant je peux spoiler un petit peu le pitch, tu sais, de la première partie, au fait.
Oh bah oui, puisque c'était il y a 2 mois, enfin, pour moi je vois pas d'inconvénient à ce que tu me
Donc
spoiles.
je sais pas si tu l'as lu entre-temps.
J'ai pas eu le temps, moi.
Non, bah alors en fait, donc on se rendait compte que les professeurs donc de cette Avengers Academy, donc des ex-Vengeurs comme Hank Pym, etc., avaient rassemblé un certain nombre de jeunes élèves pour en faire les nouveaux Vengeurs, enfin de demain, quoi. Mais au fait, ils les ont rassemblés non pas pour faire une équipe sympathique de nouveaux Vengeurs, ils les ont rassemblés pour les surveiller parce que ces enfants sont extrêmement dangereux.
D'accord.
Ils sont tous extrêmement dangereux de par leur pouvoir, mais aussi de par leur origine un petit peu perturbée. Et au fait, les Vengeurs veulent avant tout les surveiller, au fait. Ils veulent leur apprendre à contrôler leur pouvoir, leurs émotions, etc. Donc déjà le twist final, c'était on se rendait compte que bah voilà quoi, ils étaient rassemblés pour une autre raison que celle qu'on pensait initialement. Et là bah les choses vont un petit peu de mal en pis avec une idée un petit peu saugrenue d'ailleurs, je dois dire de leur prof, qui consiste à les emmener au raft et à les confronter au fait aux Thunderbolts, pour leur montrer au fait ce que sont vraiment des méchants, enfin d'anciens vrais méchants repentis, et leur montrer que c'est pas bien.
Pardon, c'est la
Oui,
façon de le
alors.
dire qui me fait rire.
Oui, voilà. Non mais enfin c'est un petit peu bizarre, en fait. Les Thunderbolts sont vraiment bizarres, parce que par exemple, dans les Thunderbolts, tu sais qu'on a Crossbones. Et Crossbones, c'est quand même un assassin sanguinaire, enfin, c'est quand même lui qui a, entre guillemets, tué Captain America, enfin, plus ou moins. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il vient faire dans une équipe de Thunderbolts? C'est toujours le problème que j'ai avec la nouvelle équipe de Thunderbolts, c'est que c'est une équipe assez bizarre. Voilà,
Moi, comme je te
c'est
dis, pour moi, hein, l'équipe de Thunderbolts actuelle, c'est une espèce de réponse à Secret Six.
oui, voilà, mais c'est une réponse un peu maladroite parce que je sais pas si Secret Six ils sont un petit peu plus légitimes dans leur rôle, mais là les Thunderbolts c'est un petit peu n'importe quoi au fait. Et donc Luke Cage fait toujours penser, aussi bien dans cette série que dans l'autre, à Gauntlet, puisqu'il a des énormes trucs au poignet. Et donc voilà, donc c'est assez bizarre. Bon, en tout cas, leur visite au raft donne lieu à des scènes assez cocasses, avec on y rencontre notamment Juggernaut, etc. Il y a Opal qui leur fait la visite. Alors c'est assez bizarre aussi parce que par exemple Speedball, qui demande à Opal de leur faire visiter les lieux. Enfin, il doit bien se douter que Opal est, elle est quand même. Enfin, je veux dire. Pour justement des élèves qui sont un petit peu influençables et qui ne doivent pas sombrer du côté obscur, les confronter à ce genre de personnes, c'est un petit peu bizarre comme choix, quoi. Bref, eh ben les choses ne se déroulent pas comme prévu, puisqu'il y a une partie du groupe de ces jeunes Avengers, enfin ils n'ont pas vraiment de nom d'ailleurs, une partie du groupe de l'Avengers Academy, on va dire, qui se sépare de l'autre et qui vont accomplir une mission qu'ils ont envie d'exécuter sur au fait l'un des détenus du raft. Donc je te dis pas qui, je te dis pas pourquoi.
D'accord.
Mais voilà, donc ça va encore se barrer sévère en sucette. Et c'est vraiment pas mal, on est vraiment surpris. Et il y a aussi beaucoup d'humour, cela dit, dans cette série. Donc, bah voilà, c'est vraiment du bon Christos Gage. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'aise aussi bien avec la continuité qu'avec une foultitude de personnages. Donc c'est toujours génial. Et honnêtement, c'est pour moi, avec Avengers Crusade, là, avec les Young Avengers. C'est la série Avengers la plus intéressante en ce moment, indéniablement.
C'est dingue, c'est la seule que je suis pas, et c'est apparemment la plus intéressante, en tout cas, selon toi.
Donc, ah oui.
Peut-être falloir que je m'y mette.
Oui, non, mais largement. Franchement, je pense que t'aimerais beaucoup. Donc pour moi, c'est évidemment un bail. C'est la série Avengers à ne pas rater. C'est l'une des rares séries Marvel, d'ailleurs, à ne pas rater en ce moment, puisqu'il n'y en a plus beaucoup qui sont très intéressantes. Voilà.
Poum, dans le temps.
Voilà.
Comme ça, ça s'est fait. Hein.
Oui.
Au passage.
Ah. Au passage, c'est fait. Bah, il y a Fantastic Four, il y a quelques petits trucs, mais...
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé quasiment que de Marvel cette semaine.
Shadowland est pas trop mal, mais faut voir. Hein,
hasard du calendrier, il n'y avait pas énormément de sorties cette semaine.
C'est vrai, oui, il n'y avait pas grand-chose.
On a galéré pour trouver des trucs à faire.
Et tu termines ?
Oui, avec DC Universe Legacy numéro 4. Scénario Len Wein, dessin alors pour les deux premières pages de Scott Collins comme toujours et la partie suivante, enfin la longue partie suivante est de José Luis García López. T'as vu avec l'accent espagnol. Hein.
Impressionnant.
Et, à l'ancrage, merci. À l'ancrage Dave Gibbons d'ailleurs devrais-je dire. Donc c'est la deuxième et dernière partie sur le Silver Age puisque sur DC Universe Legacy c'est une mini-série en 10. Pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le premier, tous les deux numéros ont changé d'époque.
Donc tu répètes pour les mauvais élèves du fond.
Hein. Voilà, ceux qui n'auraient pas écouté le Comics Weekly où j'ai parlé du premier.
Voilà.
Ou qui ne connaîtraient pas cette série d'ailleurs. Ça arrive. Donc comme je disais, deuxième et dernière partie sur le Silver Age. On suit toujours le personnage principal dans sa vie qui s'appelle. J'avais dit que j'oublierai pas, et voilà.
C'est un nom original.
Putain. Oh, elle est trop
dingue. Faudrait créer un personnage comme ça qui s'appelle J'avais dit, j'oublierai pas.
Ah non, mais j'avais dit que je l'oublierai pas. Je me suis dit, je vais le retenir, c'est bon. Et bon, c'est pas grave, tant pis. Après le premier numéro où on le voyait, les deux premiers numéros, on le voyait plutôt jeune, finalement, qui était un petit gamin qui était sur la mauvaise voie avec son meilleur ami qui l'entraînait sur la piste des gangsters, etc. Il s'est repenti, il est devenu flic. Et il sert la loi, un peu en hommage aux super-héros. Dans cette partie, on a l'arrivée des équipes assez étranges des années 60, comme la Doom Patrol ou les Metal Men. Mm-hmm. On a aussi les débuts des Teen Titans. On assiste au retour de la JSA, au premier team-up entre la JLA et la JSA.
Ouais.
Et puis on approche le tournant un peu plus violent des années 80 avec le final. Voilà, bon, je vais pas trop en révéler sur l'histoire parce que de toute façon, ça se lit pour avoir un espèce de gros panel de tout l'univers DC depuis l'arrivée des super-héros, c'est-à-dire depuis 1940.
Oui, en fait, c'est une sorte d'encyclopédie illustrée sous forme d'histoire.
Voilà, on suit en fait à travers les yeux de ce gars-là un petit peu l'évolution des super-héros à travers le temps, quoi.
De ce mec-là, qui...
Donc voilà, c'est franchement pas mal. Quoi. Moi j'aime beaucoup le principe, même si on n'apprend pas grand chose de nouveau, hein, parce qu'on.
Et alors est-ce que le style d'écriture change selon les époques ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est plus ample quand c'est le Golden Age et puis un petit peu plus rapide à lire quand ça vient vers le Silver Age ou ils ont
pas vraiment. Non pas vraiment. Non c'est non parce que généralement c'est le gars qui raconte donc c'est raconté à partir d'aujourd'hui.
Oui c'est vrai que évidemment il va pas changer sa manière de parler. Suis-je bête ?
Donc bon. Voilà on a toujours enfin on voit tous les super-héros classiques hein, les Superman, les Batman, à toute la Justice League quoi donc. Non, franchement, moi j'aime beaucoup toujours, même si
quand ça vient vers le Silver Age où ils ont pas
vraiment.
Ça.
Non, pas vraiment. Non, c'est non parce que généralement c'est le gars qui raconte, donc c'est raconté à partir d'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que évidemment il va pas changer sa manière de parler. Suis-je bête
Donc bon. Voilà, on a toujours, enfin on voit tous les super-héros classiques, hein, les Superman, les Batman, à toute la Justice League quoi. Donc Non, franchement, moi j'aime beaucoup toujours, même si, comme je dis, ça n'apporte rien, alors qu'on nous promettait un peu cette version définitive de l'histoire de DC. Finalement, pour le moment, je vois pas gros changement par rapport à ce que j'en connaissais.
Oui, c'est un petit peu le Marvels.
Exactement.
Oui.
Exactement. Voilà, c'est ça.
D'accord. Et il y a une petite histoire
Il
ensuite?
y a toujours une deuxième petite histoire basée sur une équipe ou une autre. Par exemple, dans le 3, on avait Challengers of the Unknown, The Sea Devils. Et la troisième, je me rappelle plus. Celle qui creusait sous la terre, j'ai oublié le nom. C'est pas
Top
grave.
Top Woman.
Donc là, cette deuxième partie est toujours écrite par Len Wein, bien sûr. Et au dessin, on retrouve Joe Kubert,
Ah,
le papa,
d'accord.
hein. Et donc c'est une réunion des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, le jour du bicentenaire de la guerre d'indépendance, donc en 1976. Ils se
D'accord.
retrouvent tous dans un bar et c'est l'Easy Company, du Sergeant Rock and Easy Company. Donc c'est pour ça qu'on a Joe Kubert au dessin. Voilà.
D'accord.
Et ils nous racontent, enfin ils se retrouvent, ils voient un petit peu ce qu'ils sont devenus, et puis ils nous racontent la dernière mission du Sergent Rock, tué avec la dernière balle tirée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment bien fait, c'est émouvant, c'est non franchement un bon truc quoi. Puis on a même un petit passage du Unknown Soldier qui
Ah oui, le
existe
fameux
toujours,
Unknown Soldier.
voilà, chez Vertigo actuellement.
Avec des bandelettes, c'est ça?
Voilà, sauf qu'elle est déguisée. Bon, voilà, c'est pas mal. Ça permet de replacer tous ces comics de guerre de l'époque, vite fait comme ça. Alors, en quelques pages, 8-10 pages, quoi. Mais c'est une bonne petite histoire, très sympathique. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est un bail parce que c'est vraiment bien. Mais au niveau utilité, je dirais que c'est un check-it.
D'accord.
Voilà. Mais voilà, si vous voulez en connaître un peu plus sur l'univers DC parce que vous connaissez pas trop, bah allez-y. Apprenez ça et vous aurez un historique, somme toute assez bien fait, de l'univers, de l'histoire des super-héros chez DC, en tout cas. Prochaine partie, Crisis.
Tiens,
Avec changement de dessinateur, d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est.
j'ai oublié de préciser un truc, donc bah tant pis, hein, je
Ben,
vais le dire
vas-y.
maintenant. Sur le Avengers Academy, c'est que la suite ne sera pas dans Avengers Academy, mais elle sera dans le prochain
Oui,
Thunderbolts,
c'était
puisque
un
c'est un
crossover entre les
crossover.
deux. Ouais.
Voilà. Exactement.
Ouais, tu fais bien de le préciser, d'ailleurs. Bien,
Et
bon, une semaine moyenne, quoi.
une semaine moyenne, ouais. Rien de transcendant. On espère que la semaine prochaine, il y aura plus de titres un petit peu plus. Un petit peu plus mieux.
J'ai pas regardé ce qui sort la semaine prochaine, mais on a quelques gros titres qui sont pas encore sortis ce mois-ci. Donc, bon, cette semaine, on avait quand même Avengers 3, Secret Avengers 4 aussi. J'avais lu Secret Avengers 4, mais j'ai décidé de pas en parler parce que je vais faire qu'un gros bash, donc c'est pas la peine. Voilà, si c'est pour faire un bash de 5 minutes, ça sert à rien.
Non, puis je crois qu'on a explosé encore une fois le compteur, donc
Ouais, on est aux alentours des 50 minutes là, à peu près.
un mail, un mot.
Non, pas cette semaine, pas
Pas
de
cette
mail.
semaine, mais c'est
Donc,
normal. Les gens sont en vacances, ils en profitent encore, c'est les derniers jours.
profitez-en bien.
Oui, profitez-en bien et puis lisez des comics sur la plage ou enfin, j'allais dire sous la douche. Non, sur la plage.
N'importe quoi.
N'importe quoi.
Comme toujours, donc vous pouvez nous retrouver sur le site, hein, bien évidemment. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, réagir au podcast, nous dire ce que vous avez lu, des choses qu'on n'a sûrement pas parlé. Il y avait quand même des choses qui sortaient cette semaine, hein, il n'y avait pas rien du tout. Si vous avez lu des si vous avez lu des comics qu'on n'a pas parlé ici, n'hésitez pas à nous en faire une petite review. Ça nous fait plaisir justement de savoir ce que vous avez pensé des comics qu'on n'a pas abordés. Faites-nous savoir aussi ce que vous avez pensé des comics qu'on a lus. Peut-être que vous avez un avis différent du nôtre et on aimerait bien l'entendre.
Oui, si vous voulez faire vos petites reviews dans les coms de Comics Weekly, selon les semaines de parution, vous pouvez, hein.
Ah oui,
On n'a
ça
pas de...
sera avec plaisir.
Oui. On vous lira et même on pourra commenter aussi. Ben, on vous répondra quoi.
Je sais plus comment t'en sortir là.
On a du mal, on a du mal. On va
Il
s'en
est
sortir.
10h30, c'est normal.
Oui, il est l'heure de se coucher là, quand on est vieux comme nous.
Surtout quand on se
On
lève
se
à
couche avec les
6h
poux.
le lendemain.
Voilà, plus.
voilà, oui. Bon. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Si vous posez une question, on vous y répondra dans le prochain podcast. Précisez-nous juste si vous voulez une réponse dans Comic City ou Comics Weekly. Des fois, c'est pas forcément évident selon le thème de la question, donc n'hésitez pas à nous le préciser. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, et sur iTunes, vous pouvez retrouver bien sûr tous les podcasts.
Je veux ma réponse dans un spécial qui traitera de la continuité Marvel.
La bonne blague.
Voilà.
Voilà, mais je crois que j'ai fait vraiment le tour cette fois-ci. Et n'oublie pas de faire un petit coucou à nos partenaires Cable Chronicles,
Oui.
qui, comme toujours, nous abreuvent de news, interviews, critiques de comics et chroniques en tout genre.
Et viendez nous voir en novembre normalement, donc au Lille Comics Festival toujours.
Oui, voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là.
Oui.
Bien évidemment.
Eh bien, voilà.
Voilà, donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Comics Weekly.
Oui.
Comme d'habitude, portez-vous bien et j'attends avec avidité le mot de la fin de Benny.
Bon, alors il y en avait plus en stock, donc comme c'est l'été, à nouveau, il fait à nouveau chaud, eh bien, chihuahua.
Ok.
Voilà.